d'étudier un certain nombre de textes de la Gemara, de Ritalmud, qui parle et qui pose la définition de la Tshuva, du problème de la Tshuva, et en particulier un texte vous a été annoncé qui est la page 10 de la Maseret Brachot. Mais je voudrais quand même pour introduire ce texte que nous verrons dans la Maseret Brachot citer un autre texte de la Gemara du Talmud de Jérusalem qui est un texte classique et qui va nous situer précisément la fonction de la Tshuva telle que nous l'avions définie déjà dans l'histoire et puis dans la deuxième séance à propos de l'opposition des doctrines entre Maïmonide et Nachmanide concernant la liturgie même de la Tshuva. Bien, nous trouvons le texte suivant dans la Gemara que je vais vous lire d'abord en hébreu, c'est quatre phrases et puis les traduire simultanément. Sha'alu la chokhma chote madino. Et on a demandé, on a posé comme question à la chokhma, à la sagesse, chote madino. C'est-à-dire, si quelqu'un a fauté, si quelqu'un a commis une faute, que lui arrive-t-il? Quel est son jugement? Madino. Et la sagesse a répondu par un verset de la Bible, Hataïm tirdofra, les pécheurs ou les fauteurs, comme vous voudrez, seront poursuivis par le mal, ou plus exactement par le malheur. Le malheur poursuivra ceux qui ont fauté. Voilà donc un premier niveau. Et voici l'opinion de la sagesse concernant ce problème du jugement de la faute. Si le monde n'était que tel que la sagesse peut le comprendre, c'est-à-dire tel que la pensée humaine par ses propres forces peut le comprendre, sans faire appel à un ailleurs du monde, à autre chose que le monde lui-même, si donc nous étions devant un monde impersonnel, alors la seule réponse à ce problème, il y a eu une faute, la seule réponse de la sagesse elle-même serait, eh bien, qu'un enchaînement de cause à effet fera que, en fin de compte, le malheur est la conséquence de la faute. Il y a là une vision très mécanique, ou mécaniste, si vous voulez, de ce problème. De la même manière que dans le monde physique, à la limite, une cause engendre un effet, et bien selon la sagesse, et bien sûr il y a là une option de sagesse, ce n'est pas de la science, mais vraiment de la sagesse, Chochma, il faut non seulement le comprendre, mais aussi y acquiescer, parce que ça n'est pas expérimentable immédiatement, mais selon la sagesse, de la même manière, la faute engendre comme conséquence le malheur. Même si ce malheur passe à travers des chaînes de médiation, même si effectivement ce n'est qu'en fin de compte que le malheur atteindrait celui qui se serait rendu coupable de la faute. Ça c'est donc un premier niveau, celui d'un monde perçu à la manière un peu dont la pensée scientifique se représente le monde, enfin, un monde perçu comme impersonnel, le monde de la sagesse. Et puis, deuxième moment, on a demandé à la névoie, à la prophétie, on a posé à la prophétie la même question, Chote Madino, c'est-à-dire celui qui a fauté, quel sera son statut? Et la prophétie a répondu par un autre verset de la Bible, Anefesh Achote Hi Tamut. La personne qui a fauté mourra. Et il semble que la réponse de la prophétie est bien plus grave que la réponse de la sagesse. La réponse de la sagesse consiste à dire qu'il y a une conséquence de malheur à la faute, on a violé, si vous voulez, l'ordre des valeurs morales, eh bien, finalement, ce qu'il coule, ce désordre, engendra, sous forme de conséquences rigoureuses, en fin de compte, un malheur. Et puis, pas plus. Tandis que, voici que la prophétie donne une réponse beaucoup plus grave. La prophétie dit, la personne qui a fauté mourra. En effet, charotet hitamut. Nous reprendrons d'ailleurs tous ces degrés tout à l'heure un peu plus en détail. Je veux d'abord vous décrire l'ensemble de cet enseignement. Troisième point, on a demandé à la Torah. On a demandé à la Torah la même question, Chote Madino, et la Torah a répondu, Yabi Korban Veitraper. La Torah répond qu'il approche un sacrifice, qu'il porte un sacrifice, et il sera expié. Et on est donc plus à l'aise avec la Torah qu'avec la Nebua, semble-t-il. Et puis, en fin de compte, Sha'alu la Kadosh Baruch Hu, on a demandé à Dieu lui-même quel est le statut de celui qui aura fauté, et il a répondu, Yashuv Veitraper. Qu'il se repente et il sera pardonné. Voilà donc, si vous voulez, selon cette Gemara, les 5 degrés de ce problème. C'est 4 ou 5 ? 4, oui, 4 degrés de ce problème. Eh bien, nous allons les reprendre un par un, en les comparant, si vous voulez, progressivement.
c'est-à-dire dans un monde
qui ne serait que le monde de la Chochma, alors nous avons un problème qui apparaît, c'est celui de la justice immanente. La justice immanente est une catégorie très habituelle de la pensée théologique, mais peut-être cela vous paraîtra un peu paradoxal ce que je veux dire là, mais pour la tradition juive, surtout pour la tradition talmudique, on n'aime pas du tout la justice immanente. Parce que la justice immanente, c'est précisément cet enchaînement des causes et des faits, du mal qui engendre le malheur, le malheur engendrant lui-même un nouveau mal qui engendre un malheur, et il n'y a pas de terme à la justice immanente. Et en plus, la justice immanente, la plupart du temps, est aveugle. Elle est aveugle du point de vue, en tout cas, de la représentation que l'homme peut se faire de sa propre destinée. Bien entendu, rapportée à la justice absolue, la justice immanente entre dans l'économie de la justice absolue. Mais malgré tout, et c'est surtout dans l'enseignement des Pirkei Avot, on nous exhorte à briser cette chaîne de cause à effet dans l'ordre de la justice, que l'on nomme la justice immanente, en provoquant un jugement au tribunal, de telle sorte que cette chaîne sans fin s'arrête quand même. Et voilà donc le premier principe que je voulais citer. C'est dans un tel monde que la sagesse situe le problème de la faute. Une sorte de structure proprement mécanique qui serait la justice immanente. Comme si, et d'ailleurs pas seulement comme si, il y a des lois qui gouvernent le phénomène moral, le fait moral, comme il y a des lois qui gouvernent le fait physique. Et lorsque ces lois sont violées, en fin de compte, elles se vengent. De la même manière, théoriquement en tout cas, parce que pratiquement la différence entre l'allure de la loi de la nature, de la loi physique et de la loi morale, la différence d'allure est bien connue, c'est que le résultat de la violation de la loi physique est automatique, et c'est la raison pour laquelle on croit ce que dit la science, parce que l'on peut expérimenter automatiquement et immédiatement le résultat du fonctionnement des lois. Alors que les lois de la morale, les lois qui gouvernent le phénomène moral et spirituel en général, ne jouent qu'en fin de compte, ne jouent qu'après toute une chaîne de médiation, après une chaîne de causes et d'effets, dont on ne peut pas percevoir toujours l'évidence ou la cohérence. Et c'est en particulier cette fameuse phrase de Pirkei Avot, « Al titiaesh mina poranut »« Al titiaesh mina poranut » qui signifie, une des exhortations de la morale talmudique, ne fais jamais, ne perds jamais foi dans le fait que le châtiment viendrait. Ça veut dire, ne désespère pas du châtiment. Il faudrait trouver un mot inverse d'ailleurs. Ne crois pas que le châtiment ne viendrait pas en fin de compte. C'est-à-dire, la difficulté du problème moral, c'est précisément que la sanction n'est pas automatique, que la sanction n'est pas immédiate. Il faut croire qu'elle arrivera. Et la foi dans ce problème, la foi morale, c'est de croire qu'effectivement, en fin de compte, si on a violé les lois des valeurs morales, eh bien, la sanction arrive, bien que non automatique. Et alors, c'est cet enchaînement qui est la justice immanente. Eh bien, la justice immanente n'est pas du tout aimée, d'abord parce qu'elle n'a pas de fin, et ensuite parce qu'elle est aveugle. Et c'est le processus de la justice immanente qui rend la vie de la société humaine aussi, aussi différente que l'esprit de ce que l'esprit l'exigerait. L'esprit qui connaît l'ordre des valeurs morales se suggère à lui-même un tout autre monde humain que le monde de la réalité. Dans le monde de la réalité, eh bien, on a substitué la justice immanente à la justice du tribunal parce que les tribunaux ne jugent pas. Alors c'est pourquoi, pour briser cette ronde infernale que je vous décris là, alors le Talmud conseille d'aller porter le cas de la contestation toujours devant le tribunal. Parce qu'à partir du moment où le tribunal a décidé, bien les deux plaideurs, enfin les deux Baal Eddin, c'est-à-dire les deux plaideurs, sont considérés comme innocents. Et celui qui était coupable et celui qui était innocent vraiment, les deux, après avoir reçu le jugement, sont considérés comme innocents. C'est encore une fois le problème de la bonne volonté, puisque la bonne volonté, ici, dans ce cas, consiste à accepter a priori la sanction, eh bien, la sanction va disculpabiliser. Innocenter. La sanction va innocenter. Comme vous le savez, pour un tel système de morale, il n'y a pas de casier judiciaire. C'est une morale effectivement difficile, parce qu'elle exige que la sincérité aille jusque-là, à partir du moment où le jugement a été donné, eh bien, on redevient sadique. L'homme est de nouveau innocenté. Par conséquent, il n'y a pas de casier judiciaire. Vous vous souvenez, ce que je disais à ce propos, c'est que le signe que la teshuva est sincère, c'est le fait que c'est la dernière fois qu'on se repent. C'est-à-dire, c'est le signe, effectivement, que le repentir était sincère. Et lorsque le repentir a été sincère, il est irréversible, il n'y a donc pas de casier judiciaire. Voilà le premier niveau. Alors que, dans un monde tel que le voit la prophétie, le verset qui est cité, c'est « Anefesh achotet hi tamut ». C'est la personne qui a fauté qui mourra. Je voudrais d'abord très rapidement replacer ce verset dans son contexte. C'est un enseignement beaucoup plus général, duquel cette expression est retirée pour l'économie de notre enseignement ici. C'est l'enseignement que le père ne doit pas mourir pour le fils, ni le fils ne doit pas mourir pour le père. En effet, chachoté titamut, c'est la personne qui aura fauté qui mourra. Et vous connaissez certainement l'interprétation talmudique de ce verset dans son ensemble. Ça veut dire qu'un fils ne peut pas témoigner dans un procès où son père est en jeu, et un père ne peut pas témoigner dans un procès où son fils est en jeu. Et on a donc cité cette expression, c'est la personne qui a fauté qui mourra. Vous voyez bien la différence de gravité entre la réponse de la prophétie et la réponse de la sagesse. La réponse de la sagesse, eh bien, prévoit cet enchaînement des malheurs, mais il n'y a que le malheur. Tandis que la prophétie va plus loin, puisqu'elle supprime l'être. Le nefesh, c'est la personne. C'est en tant que nous sommes conscients de notre propre existence qu'on dit que nous sommes un nefesh, une personne, un sujet. Eh bien, perdre son nefesh, ça veut dire effectivement la disparition pure et simple. Et c'est le mot de mort qui est employé. Comment se fait-il que la prophétie ne connaisse que cette peine? N'y aurait-il pas d'autres possibilités de sanctions de telle sorte que on puisse espérer un sursis pour le repentir précisé? Eh bien, c'est qu'en réalité, on ne peut pas tricher avec la prophétie. La prophétie parle des fautes qui ne se bornent pas à être des fautes d'actes, comme dans le premier cas, mais des fautes qui portent jusque dans l'être. Et, si vous voulez, dans la première phrase, dans le premier niveau, il s'agit encore des fautes d'actes. Et c'est la raison pour laquelle ce sont les relations avec les événements qui sont en jeu dans cette chaîne de causes et d'effets qu'est la justice immanente. Mais lorsque la faute est la faute de la volonté elle-même, lorsque c'est la volonté qui est mauvaise, lorsque l'attitude de la volonté est de préférer par soi-même faire le mal que le bien, par exemple, alors c'est le nefesh qui est en faute. C'est pas seulement les actes qui sont mauvais. Je veux dire, il n'y a pas seulement là une inadéquation de la valeur morale avec l'événement, il y a le fait que le sujet du problème moral est lui-même atteint. Alors, c'est cela même, la mort du nefesh. Et s'il n'y avait pas la Torah, il y aurait effectivement, s'il n'y avait pas la stratégie que va nous indiquer la Torah, il y aurait effectivement disparition du sujet de la moralité à partir du moment même où la volonté aurait été atteinte. Nous avons vu souvent ce principe que de différentes manières d'ailleurs, que l'acceptation de la loi morale comme signification de la destinée n'est possible que dans la mesure où on dispose de cette stratégie qui consiste à pouvoir revirginiser la conscience même après la faute. C'était là une des définitions du repentir que nous avons eues dans les premiers cours. Bien, c'est précisément ce que la Torah répond. Il faut qu'il y ait déculpabilisation, ce qui se nomme kapara en hébreu. Et chaper est un terme qui signifie recouvrir. C'est comme si quelque chose pouvait recouvrir une nudité qui avait été découverte par la faute. Je reprendrai très brièvement la raison pour laquelle, selon la Torah, cette liturgie de l'expiation se fait par le sacrifice. Bien entendu, comme vous le savez, le problème des sacrifices, du culte, du temple, des sacrifices, c'est un problème très vaste. Je ne veux pas du tout l'aborder dans son ensemble ce soir, mais simplement le situer dans ce premier texte que nous avons lu. Au fond, la question fondamentale est de se demander pourquoi le sacrifice qui était demandé dans le culte du temple, dans la loi mosaïque, était un sacrifice de nourriture. Et je dis bien, c'est un sacrifice de nourriture. Ce n'est pas tellement un sacrifice d'animaux. C'est un sacrifice qui consiste à représenter le repas de l'homme. Puisque, effectivement, il entrait dans ce sacrifice, pas seulement de la viande, mais aussi des parfums, comme vous le savez, et puis de l'huile ou de la farine. Et effectivement, c'est l'ensemble des constituants du repas de l'homme qui seront offerts en sacrifice. Je voudrais expliquer cela de telle sorte de comprendre pourquoi cette liturgie de la Torah va obtenir la déculpabilisation précisément par la participation à un sacrifice au culte du temple. Peut-être que par ricochet, ça éclairera l'ensemble du problème des sacrifices. Bien, ce qu'on nous enseigne habituellement à ce sujet, c'est que, au fond, d'après la Torah, l'objectif de toute l'histoire du monde, c'est que le monde entier devienne un Beth Amigdash, c'est que toute la création devienne un Beth Amigdash, c'est-à-dire le lieu de la sainteté. Mais il est arrivé déjà dans l'histoire que dans un point de l'histoire, dans un point de l'espace, dans un point du temps, est arrivé un point réussi de la sainteté, c'était le Temple de Jérusalem. Et vous savez à quel point ce centre, ainsi Jérusalem est devenu le centre du monde du point de vue de la révélation. C'est-à-dire dans cet endroit-là est advenue cette réussite du Beth Amigdash une fois. Et finalement, ce point de la sainteté est destiné à envahir la création tout entière. Et ce sera là la transfiguration qui transformera ce monde-ci en monde à venir. Ce sera un monde, comme je vous disais souvent, où Dieu et l'homme pourront cohabiter littéralement. Vous vous rappelez certainement de ce schéma de l'enseignement des récits bibliques. Pendant les 6 premiers jours du commencement, Dieu a modelé son monde de telle sorte qu'il soit habitable par l'homme, et à partir du moment où le monde de Dieu a été rendu habitable par l'homme, alors l'homme apparaît dans le monde, mais Dieu se cache. Et puis l'homme hérite de ce monde sans Dieu apparemment, et il doit l'aménager de telle sorte que de nouveau Dieu puisse y résider. Dans le monde de Dieu, il n'y avait pas de place pour l'homme, et dans le monde de l'homme, il n'y a pas de place pour Dieu, tant que, ajoute la Bible, tant qu'il y a la faute. Je veux dire, métaphysiquement, c'est bien facile à comprendre. Hein? L'être de Dieu est tel que la présence humaine s'évanouirait, littéralement. Le Zohar nous dit comme la flamme d'une bougie dans le soleil. Et de la même manière, et pour la même raison, dans le monde de l'homme, la présence de Dieu est encore impossible, pour exactement la même raison, parce que l'homme serait embrasé, serait brûlé par cette présence. Il faut donc que Dieu se cache pour que l'homme puisse exister. Mais un monde où Dieu s'est caché, ce n'est pas encore un monde. Et la construction de la sainteté, c'est précisément arriver à résoudre cette impossibilité originelle, un monde où Dieu et l'homme puissent coexister, et c'est cela le monde à venir, et c'est dans l'endroit de la sainteté qu'effectivement cette coexistence est possible. Par conséquent, la faute est très exactement, comme disent les textes, le massar, si j'ose dire le rideau de fer qu'il y a entre le Créateur et la créature. Et vous comprenez pourquoi la Bible insiste dans le fait que la base de la sainteté, c'est la moralité elle-même. Eh bien, c'est ça le secret du culte du temple mosaïque et du sacrifice. Parce que finalement, on nous enseigne que toutes les fautes que l'homme a l'occasion de faire dérivent du fait qu'il doit obtenir sa nourriture pour vivre. Et dans ce concept de nourriture, il n'y a pas seulement, si vous voulez, les aliments, mais tout ce qui est littéralement aliment de la conscience, tout ce que l'on appelle en hébreu hana, toutes les jouissances qui sont nécessaires pour que la conscience existe, et non seulement existe, mais connaisse son existence, à tous les niveaux, eh bien, c'est par le fait que la recherche de ces jouissances est la condition même de l'existence que, inévitablement, l'homme est donné au risque de la faute. Et par conséquent, la déculpabilisation se faisait par la participation à ce repas parfait dans le temple pour lequel aucune faute n'avait été faite. Cette nourriture qui représente l'acte du sacrifice est, comme vous le savez, Hekdesh. C'est-à-dire, c'était la part de nourriture qui provenait au prêtre en dehors du circuit économique. C'était, par exemple, la dîme, c'était la trouma, les prélèvements, c'était les consécrations au temple. C'est-à-dire, une nourriture qui était sainte en elle-même, puisque aucune faute n'avait été faite pour l'obtenir. Et cette nourriture-là, c'était ça le korban, c'était le sacrifice. Et bien, c'est par participation à ce sacrifice, c'est-à-dire à un repas parfait pour lequel aucune faute avait été faite, par l'homme le plus parfait, habillé des vêtements parfaits et habitant la maison parfaite, c'était ça le geste du culte du temple de Jérusalem, que la déculpabilisation se faisait. Et comment ? Par le fait que l'on attestait que s'il n'y avait pas cette clause de l'existence humaine, d'avoir à se nourrir pour pouvoir exister, eh bien, dans le cas de la bonne volonté, bien entendu, on ne ferait aucune faute. Parce que, et là, j'ai beaucoup réfléchi, si vous voulez, pour pouvoir arriver à être aussi exhaustif, sans aucune exception, tout ce que la Torah, ou que la morale, ou que l'éthique en général, peut désigner comme faute, dérive de la recherche d'une hana, dérive de la recherche d'une jouissance. Et d'une jouissance qui, par définition, est indispensable à la vie. Et, si vous voulez, au niveau le plus matériel, eh bien, le sacrifice, le korban, c'est le repas. Mais, encore une fois, la conscience n'existe pas seulement des aliments solides, enfin des nutriments, comme on dit, elle existe de toutes les jouissances de la représentation. C'est d'ailleurs indiqué dans le récit de la première faute, puisque vous vous souvenez du verset où la Bible dit que la première femme avait, en parlant du fruit défendu, elle avait vu qu'il était bon à manger, beau à voir et précieux à comprendre. C'est-à-dire, à tous les niveaux de la jouissance, l'être que nous sommes se nourrit de sa propre représentation. Et c'est parce qu'il est nécessaire de se nourrir pour exister qu'en fin de compte, des fautes peuvent être faites. Je voudrais d'ailleurs éclairer, du point de vue de cette doctrine, éclairer cette nécessité elle-même. Et pourquoi notre manière d'exister est-elle de telle sorte qu'il faille se nourrir pour exister. C'est la différence d'ailleurs entre l'existence et l'être. Eh bien, c'est précisément pour que le problème moral puisse être posé. Et on remarquera effectivement qu'il n'y a aucune autre situation du problème moral que reliée au problème économique. Et par conséquent, nous sommes dans le monde du problème économique pour que le problème moral puisse nous être posé. Et c'est parce que nous sommes dans le monde du problème économique que la faute, qu'il y a le risque de la faute. Par conséquent, c'est dans un circuit de jouissance retiré du circuit économique qu'apparaîtra la Kedusha. Et vous comprenez pourquoi la nourriture du Kohen est dite sacrée. C'est la même nourriture de la même récolte, du même champ de blé. Mais la gerbe que l'on a prélevée pour la donner comme terouma au Kohen, elle est en elle-même Kedusha parce qu'elle ne va pas entrer dans le circuit économique où elle serait littéralement souillée par les fautes que la relation économique oblige l'homme à faire. Est-ce que c'est suffisamment clair, hein? Je veux dire qu'il est bien évident qu'aucune conscience ne peut être intacte à partir du moment où elle entre dans le jeu de ce circuit économique, comme je vous le nomme, et il ne s'agit pas seulement du commerce ou du métier, quel que soit le métier, mais de tout ce commerce des jouissances qui fait que la conscience existe. Si on supprime un morceau de pain pendant trop longtemps à une personne, elle tombera en syncope. Mais si on lui supprime aussi son paysage, elle tombera en syncope. Et même dans la recherche du paysage, c'est aussi une nourriture. Tout cela s'appelle Hana. Tout cela s'appelle Achila. Hana. Alors voilà donc ce que dit la Torah. Et après l'enseignement de la prophétie, en effet, charoté ditamut, si la personne est atteinte par le mal, alors la personne comme telle n'a comme ici que la mort. Parce que il s'agit là, bien entendu, des fautes qui sont faites bémésides, intentionnellement. Des fautes qui sont faites avec la volonté de les faire. Et lorsqu'effectivement c'est la volonté qui est engagée dans la faute, il n'y a pas de circonstances atténuantes possibles. Parce que c'est pas seulement le niveau des actes, c'est l'être lui-même, hein, qui est atteint. Alors la Torah résout le problème en nous parlant des fautes qui sont faites sans avoir voulu les faire expressément. Toutes ces fautes qui dérivent, comme je vous le disais, de notre destin économique. Et puis, dernier degré, on a demandé à Dieu, Chotem Adino à Dieu lui-même. Chotem Adino, celui qui a fauché, quel est son statut, quel est son jugement, et Dieu répond qu'il se repente et je lui pardonnerai. Et il sera pardonné, littéralement, veille frappée. Et qu'est-ce qu'y a-t-il de plus que le degré précédent, ou plus exactement dans le degré précédent, qu'est-ce qu'il y avait de moins? C'est le fait que le korban, le sacrifice, ne peut expier que la faute involontaire, comme vous le savez, enfin je veux dire la faute qui n'est pas voulue expressément. Je crois que le terme d'involontaire n'est pas suffisant pour désigner ce que l'hébreu veut dire en disant « shegaga », la faute qui n'est pas voulue expressément. Ça, comme nous le voyons, le sacrifice peut expier. Mais la faute voulue expressément, alors c'est là que nous arrivons au dernier carré, la faute voulue expressément, il n'y aurait pas d'issue, et bien c'est là que le repentir intervient. C'est-à-dire dans la mesure où l'homme retrouve cette possibilité, cette capacité d'inverser dans son temps intérieur, d'inverser l'attitude, sa propre attitude en tant que sujet des actes. Voilà donc les quatre niveaux de ce premier texte que je voulais citer à ce sujet. Et nous avons cette fois, dans la Gemara de Brachot, un enseignement qui se trouve à propos du verset des psaumes qui, lui aussi, institue cette doctrine qu'il y a une différence entre la personne et ses actes et qu'il y a ces deux niveaux de la faute d'acte et de la faute d'être. Et je vais vous donner d'abord le contexte de ce verset dans la Gemara. Bien. Alors, c'est un enseignement de la Gemara qui rend compte de la raison pour laquelle le texte de la prière, le texte de la liturgie des 18 bénédictions, a précisément 18 bénédictions, dans un parallèle qui est fait avec les 18 premiers psaumes. Et à ce propos, on nous dit que David a prononcé 103 psaumes. Ce chiffre a une importance d'autre part dans le contexte, mais ne concerne pas notre sujet, que David a prononcé 103 psaumes avant de pouvoir dire le mot de « Alléluia ». Et ce mot de « Alléluia », comme vous le savez, signifie en hébreu « louer le Seigneur »,« louer celui qui est Dieu », »,« Alléluia », »,« louer »,« Ya », »,« Dieu ». Et avant de pouvoir prononcer ce mot de « Alléluia », il fallait 103 psaumes, parce que ce n'est qu'à cette étape du cheminement de l'enseignement de David à travers les psaumes qu'il voit ce qu'il dit dans ce dernier verset du psaume 103 qui contient ce mot de « Alléluia »,« Itamu chataim min haaretz » Et c'est surtout la première partie du verset qui va nous importer ici. Les fautes disparaîtront de la terre. Alors il n'y aura plus de rechaim, de méchants, si vous voulez. Que ma personne peut bénir, reconnaître Dieu comme source de bénédiction, peut bénir Dieu. Alléluia, alléluia, louer Dieu. Et alors, ce contexte nous indique que pour pouvoir prononcer ce mot de « Alléluia », il fallait d'abord parler d'un monde où il n'y aurait plus le mal, où il n'y aurait plus les fautes et ni les pécheurs. Ni les fautes, ni les pécheurs. Et c'est là que nous avons dans ce verset ces deux niveaux, au niveau de l'acte et au niveau de l'être. Alors, premier point, que signifie ce fait qu'il fallait pouvoir dire qu'il n'y a plus de « Hataïm » ou qu'il n'y a plus de « Rechaïm » Que signifie ce fait qu'il fallait voir un monde sans mal pour pouvoir dire Alléluia. Mais c'est qu'en hébreu, le concept de la louange, la catégorie de la louange, est très proche de la catégorie de la définition. Louer, en fin de compte, en hébreu, ça signifie définir. Puisque, finalement, la véritable louange, c'est la définition elle-même. D'ailleurs, je vais vous rappeler cela très, très rapidement en langue hébraïque. Vous savez que l'article dans la langue hébraïque est la lettre « He » et qu'après cette lettre « He », on met en général un « Dagesh » dans la lettre qui suit. Et selon les grammairiens, enfin c'est la théorie la plus courante, mais dans ce cas je pense qu'elle est effectivement à retenir, selon les grammairiens, ce « Dagesh » indique qu'une lettre est tombée et la lettre que le « Dagesh » remplace serait la lettre « Lamed ». Par conséquent, l'article originel serait « Hal ». Effectivement, il en est ainsi en arabe, qui est, comme vous le savez, aussi une langue sémitique. Par conséquent, je crois qu'on peut s'y référer. Ça ne fait pas toujours... ces analogies entre langues même voisines ne sont pas toujours probantes, mais enfin, peut-être que dans ce cas, c'est le cas. Effectivement, en arabe, l'adjectif, c'est « al », comme vous le savez. Donc, « hal » en hébreu, « al » en arabe. Et alors, ce « lamed » du « hal » serait tombé, ce qui, pour donner la lettre « he » comme article. Ce qui signifie que la racine de l'article, et l'article, c'est la définition, hein, l'article défini. Et la racine de l'article serait la racine « hal » ou « halo ». Et cette racine est inusitée dans sa forme simple, mais elle est connue dans sa forme intensive, c'est la racine « halel » qui signifie « louer ». Vous comprenez mieux maintenant, pas ? C'est-à-dire que la catégorie de la louange, c'est finalement la catégorie de la définition elle-même. Et d'ailleurs, je crois qu'on va faire une analyse logique très, très rapide. Si l'on dit de quelqu'un plus que ce qu'il est, alors la louange est péjorative. Si vous dites un adjudant au lieutenant, il vous met en prison. Et pourtant, on l'a félicité. Enfin, ça se fait pas. C'est, la louange doit être au niveau exact de la définition. Si vous lui dites aussi mon caporal, la plus grosse raison. C'est-à-dire, il faut dire ni moins, ni plus. Par conséquent, louer vraiment, c'est effectivement défini. Et alors, on ne peut pas louer Dieu. On ne peut pas, comment dire, dire qui est Dieu dans le monde tel qu'il est encore avec le mal. Voilà ce que ce texte d'Alluf veut nous faire comprendre. Il faut que David puisse dire qu'il parle d'un monde où il n'y a plus le mal pour qu'il puisse dire enfin « Alléluia, louez le Seigneur ». Est-ce que c'est bien clair? Dire « Alléluia, le monde étant ce qu'il est », eh bien, c'est blasphématoire, c'est contradictoire. Vous savez d'ailleurs que nous avons dans une autre liturgie une catégorie assez analogue, c'est lorsque... On prononce la proclamation de foi du Kriyat Shema, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un, et après on dit Baruch Shem Kevod Malchut Olam Va'el, béni soit le règne de sa gloire tel qu'elle se manifeste dans le monde, et on dit ça à voix basse. Et pourquoi le dit-on à voix basse? La Gemara dans Psachim discute, dit il y a eu des communautés qui le disaient à voix haute, on les a excommuniés de dire à voix haute que soit reconnue la gloire de Dieu dans le monde. Pourquoi? Vous comprenez, c'est la même idée. Parce qu'il faut être complètement blasphémateur, il faut être complètement hérétique, si vous voulez, supposer admettre que le monde tel qu'il est puisse être la gloire de Dieu. Est-ce que vous comprenez bien ce que je veux dire? Alors, ne pas le dire, on ne peut pas, dit la Gemara. On ne peut quand même pas dire. On ne peut quand même pas ne pas dire qu'il y a un peu de la gloire. Mais on ne peut pas le dire à voix haute. Sauf, comme vous le savez, un jour de l'année. Où on le dit à voix haute, c'est le jour de Kippour. Parce que le jour de Kippour, alors vraiment, on est complètement retiré du circuit économique, et alors il n'y a pas de mal, et par conséquent, on est kadosh. Et on peut dire que... vous comprenez ce que je veux dire. On est comme des malachis. Les kabbalistes expliquent que la gamatria du mot de Hasatan, c'est 364, et il y a 365 jours dans l'année. Par conséquent, le Satan est souverain pendant 364 jours dans l'année, sauf le 365e, qui est le jour de Kippour. Alors donc, le Satan ne joue pas à ce jour-là, et on peut dire cette phrase à voix haute. Alors, c'est donc une idée analogue. Hein? Il faut pouvoir dire « Tamu chatayi minaret surshayi modelam » pour dire ensuite, pour dire pour la première fois « Alléluia ». Est-ce que c'est bien clair? Hein? Bon. Alors, c'est surtout à propos de la première partie du verset que notre Gemara enseigne une discussion qu'il y a entre Rabbi Meir et sa femme. Comme vous savez, la femme de Rabbi Meir se nommait Beruria, et c'était une chassida, enfin plus exactement une isha hachama, en tout cas. Et il y a une discussion entre Beruria et Rabbi Meir. On nous raconte qu'ils habitaient dans un quartier où il y avait des voyous, je ne sais pas comment dire, des voyous, qui gênaient énormément Rabbi Meir. Et Rabbi Meir a prononcé ce verset, sous forme de souhait, en disant que disparaissent ces pécheurs, que je puisse dire Alléluia. Oui, à peu près, le maracé, l'histoire dont il s'agit. Et Beruria lui répond, mais il n'est pas écrit, il est écrit, Il n'est pas écrit que les pécheurs disparaissent, il est écrit que les fautes disparaissent. Alors Rabbi Meir a objecté, mais il est écrit « Ushaïm Adenam », mais il est écrit à la fin du verset « et les pécheurs aussi eux-mêmes, l'Ushaïm eux-mêmes ». Alors elle a répondu, c'est quand il n'y aura plus de fautes qu'il n'y aura plus non plus de pécheurs. Mais ça ne signifiera pas que les pécheurs auront disparu. Alors Rabbi Meir lui a demandé qu'est-ce qu'il faut faire. Elle a dit « Prie pour eux, qu'ils se repentent et qu'ils soient pardonnés ». Alors, comme toujours à la fin d'un enseignement de ce genre, il y a un petit miracle, ici il y en a deux d'ailleurs, que Rabbi Meir a prié, et puis que sa prière a été exaucée, et qu'ils ont fait tchouva, et qu'effectivement ils ont été pardonnés, sont devenus les élèves de Rabbi Meir. Et voilà donc cette différence, c'est la différence entre « Hataim » et « Chotim ». Et je terminerai sur la lecture donc de ce verset. C'est que, en fin de compte, le mal vient s'insérer dans la relation des actes entre la personne humaine et le monde de la création, mais il se dévoile que la conduite du repentir peut dégager la personne de cet handicap des actes. C'est-à-dire que la personne peut rester en deçà du kilkoul, vous comprenez certainement, du désordre que le mal peut introduire. Que, encore une fois, la liturgie du repentir peut arriver à sauver la personne elle-même du désordre moral que la personne elle-même aurait causé. Et c'est la différence entre Hataim et Choteim. C'est donc l'essentiel de l'enseignement du roi David, qui a été effectivement le chantre de la tshuva, et de telle sorte que l'on puisse dire Alléluia. C'est-à-dire, même dans le temps de ce monde-ci, alors qu'il y a encore les actes manqués au niveau de la morale, on peut quand même dire Alléluia, dans la mesure où le repentir permet de dégager la responsabilité de la personne et la déculpabilise. Bien, voilà ce que je voulais vous rappeler pour ce soir. Je vous rappelle que nous avons, à partir de vendredi soir, un Shabbat au centre de l'Éperon, à la rue de Montflègue, et que nous aurons ensuite, lundi soir, ici même, la conférence de clôture. Bien, vous pouvez avoir quelques minutes la parole si vous avez une ou deux questions à poser, mais assez rapidement, parce que comme vous le voyez, je ne supporte pas le climat de Paris et je suis enroué.